Alors, avant de commencer, je voudrais lire juste un verset. Vous pouvez le lire avec moi dans Exode 3, 12. Je l'ai déjà lu, mais je ne l'ai pas commenté, et c'est très, très important. Exode 3, 12. On avait vu hier soir, cette rencontre entre Dieu et Moïse. Un peu fatigué. Entre Dieu et Moïse. Et on avait vu combien Moïse, cet homme extraordinaire, était devenu quelqu'un de faible. Et on avait vu que toute rencontre avec le Seigneur, quelque part, nous mettait en face de nos propres forces, c'est-à-dire pas grand-chose, quoi. Mais c'est pas grave, parce que si nous sommes faibles, c'est alors que le Seigneur peut être fort. Et c'est ce qui s'est passé pour Moïse, on l'a vu hier, plutôt ce matin, dans ce face-à-face avec Pharaon, et comment Moïse, eh bien, a réussi à faire plier Pharaon. Bien sûr, il y a eu ces miracles, ces signes, mais on voit dans cette discussion combien Moïse avait confiance en son Dieu et combien il a réussi à arracher et à faire que le peuple quitte l'Égypte pour aller vers Israël. Et c'est vrai qu'il l'a fait avec un bras puissant, et effectivement c'est ainsi que les Juifs ont quitté l'Égypte pour le territoire que Dieu avait décidé de lui donner. Mais au verset 11 et 12, il y a une notion très, très importante qui nous concerne. Il est dit, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Et donc on avait vu qu'au travers de ça, Moïse avouait sa faiblesse. Dieu lui dit, je serai avec toi. Et combien c'est merveilleux de savoir que le Seigneur est toujours avec nous lorsque nous voulons servir. Et puis un peu plus loin, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie, quand tu feras sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. On a chanté un cantique tout à l'heure, donc inspiré d'un négro spiritual, Let's My People Go. Mais ici, on s'aperçoit qu'il y a une double dimension dans ce départ d'Égypte. Un, la libération du peuple, mais pas pour s'amuser, pas pour jouir d'une vie nouvelle, sympathique, dans un pays où coule le lait et le miel. Non, il est bien dit, ici, dans ce verset 12, « Vous servirez Dieu sur cette montagne ». Si le Seigneur nous a libérés de notre péché, si le Seigneur nous a donné la vie éternelle, c'est dans un but précis. Bien sûr, notre Dieu est heureux de nous donner une vie nouvelle. Ça, c'est évident, et jamais personne pourra le nier. Mais il y a derrière un but. Et ce but est clairement exprimé ici, pour que vous serviez l'Éternel. Nous avons été délivrés dans un but précis, c'est pour servir l'Éternel. Et ce qui est vrai pour le peuple juif, l'est également pour nous. Alors là, il faut faire un petit rappel du plan de Dieu pour l'homme. Lorsque Dieu a créé l'homme, son commentaire a dit, était dans le livre de la Genèse, cela était très bon. Et au travers de cette affirmation que Dieu donne, on voit que Dieu a un double désir concernant l'être humain. D'abord, il l'a créé à son image, à sa ressemblance. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais pour avoir un minimum de communion, de communication avec quelqu'un, il faut que vous ayez les mêmes capacités que lui. C'est-à-dire que vous devez avoir, de la part de Dieu, des capacités qui vous donnent au niveau intellectuel, mais au niveau émotionnel, de pouvoir être en phase avec Dieu. Et c'est pour ça que dans sa bonté, notre Dieu nous a créés avec des capacités intellectuelles, découvrir son salut, découvrir sa personnalité, découvrir son amour, et vivre en conséquence. Mais également émotionnel, notre Dieu est un Dieu qui a des émotions. Notre Dieu peut être en colère et châtié, mais notre Dieu peut être aussi, quand il le faut, plein de douceur, plein de tendresse, et dans l'Ancien Testament également, il n'y a pas que dans le Nouveau Testament. Donc quand Dieu nous crée à son image, c'est qu'il a un but, et ce but profond, c'est de pouvoir avoir une relation avec l'être humain. Et moi, personnellement, je trouve ça fantastique. Et je loue le Seigneur qui m'a donné quelques grammes de cerveau, quelques grammes de cœur, de façon à pouvoir le connaître, Parce qu'on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Et quand Paul nous dit « Je sais en qui je crois », il affirme ainsi que sa foi est basée sur une connaissance précise de la personne de Dieu. Mais non seulement je le connais, mais je l'aime. Et je me régale de la personne de mon Dieu. Et je le loue de ce qu'il m'a donné, justement, les capacités pour pouvoir le faire. Ça, c'est la première chose qui transparaît au travers de la création. Mais ce n'est pas tout. Dieu veut avoir avec nous une communion basée sur le partage de valeurs communes. Dans la Bible, il est clair que notre Dieu, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, nous savons qu'il est le Créateur. Nous savons qu'il est omnipuissant. Nous savons qu'il est omnipotent et qu'il est omniprésent. Ça, ce sont des qualités que lui seul peut avoir et que nous n'aurons jamais. Mais de quoi se vante le plus notre Dieu dans l'Ancien Testament ? De sa bonté, de sa miséricorde, de ses qualités que nous apprécions et que nous avons découvert et que nous aimons là encore. Et ce que Dieu veut pour nous, c'est que ces qualités qu'il nous a présentées parfaitement au travers de son Fils, nous puissions les acquérir. Et plus j'acquérerai les qualités que Dieu a, et plus ma communion avec lui sera importante. C'est sur terre que je prépare mon éternité. C'est maintenant que j'apprends de Dieu à aimer, c'est maintenant que j'apprends de Dieu la patience, c'est maintenant que j'apprends de Dieu toutes ces qualités, afin que, lorsque je serai avec lui, je puisse en bénéficier pleinement. Dans l'éternité, certains seront des enfants. Et comme disait un ami, un enfant se satisfait d'un hocher. Ça lui suffit. Personnellement, si Dieu le veut, j'aimerais avoir un peu plus de relations avec lui que de me satisfaire que d'un simple hocher. Est-ce que je suis trop fier en disant ça ou orgueilleux? Non. C'est ce que Dieu veut. Et dans l'Ancien Testament, dans Michée, il est dit... Quand Michée dit, mais avec quoi m'approcherais-je de Dieu? La réponse est, on t'a fait connaître aux hommes ce qu'il est bien. C'est pas de préparer des holocaustes. C'est pas de faire des choses extraordinaires. Non, c'est que tu aimes la miséricorde et que tu pratiques ces choses. Et dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que Dieu veut que nous acquérions? Les fruits de l'esprit. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, les qualités de Dieu. L'amour. Et toutes ces qualités qui font que un chrétien qui grandit, c'est un chrétien qui, de plus en plus, est rempli des qualités de Christ, c'est ce que la Bible appelle revêtir Christ, n'est-ce pas? De façon que ma communion avec lui soit le plus important possible. Et c'est pas tout. Il y en a des choses, hein. La gloire que le Seigneur me donnera dans l'éternité sera fonction de l'acquisition de ces richesses. Parce que notre Dieu veut non seulement une relation, il veut une communion. On a parlé aussi d'héritage. Qu'est-ce que c'est? C'est pas des euros, hein, ni des dollars. De toute façon, vu le cours du dollar, que ce soit des euros. Mais c'est ni l'un ni l'autre. Ce que Dieu veut, les richesses, ce sont les richesses spirituelles. Ce sont ces choses que le Saint-Esprit veut former en nous. Et mon union avec le Seigneur, mais déjà vous le connaissez ça. Combien quand vous lisez la Bible et que vous êtes frappé par ces qualités de Christ qui vous touchent, qui vous touchent tellement que votre cœur frémit. Ce vaillant héros qui a défendu sur terre ses qualités divines, comme le psaume 45, je crois, nous le dit. Vaillant héros, saint ton épée, ta parure, et combat pour la justice, pour la vérité, etc. Donc ici, quand Dieu a créé l'homme, à sa ressemblance, il avait un projet. Et dans le jardin d'Éden, on voit déjà que Dieu partage avec Adam, avant la chute, ce projet. Il parcourait le soir le jardin. Dieu, contrairement à ce que notre frère nous a dit, enfin pas contrairement à ce qu'il nous a dit, mais comme il nous l'a dit, par rapport à l'islam, le Dieu d'islam n'a que faire de sa création. Alors que le Dieu de la Bible est proche de sa création. Et ça m'a touché parce que quand on voit... Où je retrouve, quand on voit le nombre de passages dans la Bible où on voit clairement que Dieu veut avoir une relation avec l'homme, ben ça commence déjà à la création, mais ensuite vous avez ça, on le verra dans le dans le sanctuaire, parce qu'on voit que Dieu veut habiter au milieu de son peuple. La tente du témoignage ou du tabernacle était au milieu du peuple. Et ce tabernacle était rempli de la présence de Dieu, parce que Dieu se plaît au milieu des hommes. Après, c'est le Christ qui est venu sur terre. Et le Christ a eu du plaisir, j'en suis certain, même si ça n'a pas toujours été très facile, à être avec ses disciples. Il est dit qu'il aimait être avec Marie, avec Lazare, et puis leur sœur. Vous vous rappelez de ça? Il aimait s'y retrouver. Vous savez, ce n'est pas un Dieu de bois, si je puis dire. Et puis ensuite, quand Christ est venu sur terre, il est dit qu'il a habité parmi nous. Jean, Évangile de Jean, chapitre 1. Et le mot grec, en réalité, ne devrait pas être traduit par habité, mais comme le dit une autre traduction, il a mis sa tente, il a tabernaclé, pour nous rappeler le tabernacle de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était la Shérina, la gloire de Dieu. Là, c'est Christ lui-même, Dieu lui-même qui est au milieu des hommes. Et puis ensuite, Dieu se plaît dans le cœur de chacun de nous. Il habite en nous. Il est aussi dans l'Église. Et puis enfin, il nous dit, quand il est parti, il dit à ses disciples, « Je m'en vais vous préparer une place. » Et ça, c'est le top. Le Seigneur est en train de nous préparer une place, de façon que nous soyons pour toujours auprès de lui. Ça vous plaît comme programme? Ah, quand même. Amen,
Amen.
Ah, quand même, j'ai eu peur. Je dis, tiens, ça se trouve, ça leur plaît pas trop. Préfère une nuit d'hôtel à l'hôtel Formule 1 plutôt que non, je pense pas. Donc, notre vie entière sur Terre, c'est une préparation à cela. Malheureusement, il y a eu un gros hic. Et ce gros hic, ben, c'est la chute. C'est ce qui s'est passé en Éden. Il y a eu la rupture de la communion entre Dieu et nous. Et immédiatement, il y a eu une cessation de vie spirituelle. Adam et Ève ont été chassés de la présence de Dieu. Et d'ailleurs, l'enfer, qu'est-ce que c'est? Ben, si vous lisez bien ce que c'est que l'enfer dans la première épître aux Thessaloniciens, c'est d'être privé de la gloire et de la présence de Dieu. Avez-vous imaginé ce que c'est que l'enfer un jour? Eh bien, c'est de ne plus rien avoir de divin autour de soi. Quand les gens disent « ma vie est un enfer », je crois que c'est vrai parce que certains souffrent. Mais imaginez un endroit où il n'y a plus rien de Dieu, aucune relation amicale. Parce que l'amitié, toutes ces choses bonnes, viennent de Dieu. Il n'y a plus la lumière, puisque Dieu fait luire sa lumière aussi bien sur les bons que sur les méchants, mais en enfer, il n'y aura plus rien de Dieu. Imaginez-vous un endroit où il n'y a plus rien de Dieu. Même les vestiges que nous pouvons connaître aujourd'hui. Plus rien, plus rien, plus rien. Ça, c'est l'enfer. C'est pour ça que, quand on connaît la joie d'être auprès du Seigneur, l'enfer nous paraît vraiment épouvantable. Et notre travail, ben, c'est de faire connaître à ceux qui nous entourent qu'il y a un enfer, mais qu'il y a aussi une vie éternelle. Question. Moi aussi, je peux poser des questions, mademoiselle. Et la réponse n'est pas... Dans quel passage de la Bible, ou plutôt, qui dans la Bible parle le plus de l'enfer? Jésus. Surprenant, on pourrait dire, ah, le petit Jésus, tout gentil, tatata. Mais celui qui parle le plus de l'enfer et qui nous le fait craindre parce que c'est une réalité, c'est Jésus. Il nous met en garde. Et c'est pour ça qu'il nous fait comprendre que la vie éternelle, c'est quelque chose de précieux. Donc, on voit ici qu'à cause du péché, Romains nous dit, Romains 3, 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, comme quoi l'enfer c'est bien d'être privé de cette présence. Et puis dans 2 Thess 1.9, ils auront pour châtiment, ceux qui n'ont pas cru, une ruine éternelle, donc l'enfer, qu'est-ce que c'est? Loin de la face du Seigneur, loin de la face du Seigneur, c'est-à-dire de sa présence, c'est ça l'enfer. Et puis également loin de la gloire, de sa présence, de sa force. Voilà ce que c'est que l'enfer. Alors, à partir de ce moment-là, toutes ces belles capacités intellectuelles, morales, sentimentales que le Seigneur nous avait données, à cause du péché, ont commencé à se pervertir. Tout a commencé à se pervertir. Et c'est ce qui est dit dans l'Épître aux Romains, quand Paul nous dit, au lieu de le reconnaître comme Dieu, ils ne l'ont pas reconnu comme Dieu, ils ne l'ont pas rendu grâce, et alors ça a été le début de la catastrophe qui va jusqu'à tout commencer à aller de travers, et puis vous savez même, des choses qu'on en parlait tout à l'heure avec des amis, même au niveau des relations hommes-femmes, et bien maintenant l'homosexualité, etc. Pourquoi ? Parce que l'homme qui avait des merveilleuses capacités ne s'en sert que pour faire le mal. Et le déluge, c'est quoi ? Et mais lorsque Dieu a vu que toute chair avait corrompu sa voie et que les hommes ne pensaient qu'à faire le mal, Dieu a dû intervenir. Et ça a été le déluge. Je ne sais pas combien il y avait d'habitants sur la terre à ce moment-là, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont réchappé. Et puis ce qui s'est passé avec le déluge, on le sait, parce que l'épître de Pierre est clair, va se faire à nouveau, mais le jugement ne sera plus l'eau, ce sera le feu. Notre terre va être détruite. C'est pour ça que je vous conseille de vous dépêcher pour visiter la tour Eiffel. Parce qu'un jour, elle n'existera plus. Ah oui. Tous ces beaux monuments que l'homme a fait plaisir, s'est fait plaisir à construire, c'est clair, net et précis, cette terre qui est souillée par le péché va être entièrement détruite. Et il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc l'homme, au lieu de se soumettre à Dieu, eh bien, Satan les avait tentés en disant « Vous serez comme des dieux ». Et c'est ce qui se passe autour de nous. Et si vous regardez les grands mouvements philosophiques qu'il y a eu, en particulier l'humanisme, c'est de faire quoi ? L'humanisme, c'est de dire « L'homme est un petit dieu ». Et comme l'homme n'a aucune connaissance de ce qui est vraiment le bien et ce qui est vraiment le mal, eh bien l'homme fait n'importe quoi. Paul nous dit « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous ». Et c'est bien ce qui se passe autour de nous. C'est la source même du péché, vivre aujourd'hui en rejetant Dieu. Et l'homme va donc rechercher non plus la gloire de Dieu, mais la gloire de l'autre, la d'autre homme. Et c'est pour ça qu'il est dit dans l'évangile de Jean, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Mais, il y a un mais, c'est que Dieu va agir. Pas réagir. Parce qu'il savait très bien, et c'est là un mystère, le mystère de l'iniquité, il savait très bien que l'homme chuterait. Et déjà, il savait qu'il y aurait une rédemption. D'ailleurs, dans Genèse 3, 15, il y a déjà, dès la chute, l'annonce d'une rédemption, qu'il y aurait une guerre entre la descendance, la semence de la femme et le serpent, et que la semence de la femme écraserait la tête du serpent, Satan, mais que lui serait blessé au talon. Et donc, eh bien, c'est là que le Seigneur va intervenir sur cette terre pour nous donner une vie nouvelle et pour restaurer cette communion. Alors, cette communion, c'est, comme on l'a vu tout à l'heure, non seulement nous redonner la vision de la gloire de Dieu, nous redonner la vision des qualités de Dieu et le désir de rentrer dans ces qualités de Dieu, ce que nous aurions dû continuer à faire et à vivre. C'est pour ça que le Christ a ce travail extraordinaire de restauration du plan de Dieu au travers donc de ce qu'il va donner pour que ce plan puisse se faire sa propre vie en portant non seulement nos péchés mais également notre nature pécheresse. Alors, il fallait donner aux hommes le modèle de l'art et la manière de s'approcher de Dieu. Le tabernacle de Moïse, c'est une leçon de choses. C'est-à-dire que, je ne sais pas, est-ce que certains d'entre vous ont déjà été accueillis par un roi sur terre, hein ? Personne. C'est dommage, moi non plus. Enfin, ça aurait été bien de le dire. Est-ce qu'on s'approche d'un roi n'importe comment ? Non, je pense pas. Hein. Comment s'appelle l'art et la manière de s'approcher d'un personnage important ? Le protocole. Le protocole. Eh bien, Dieu va donner à l'homme le protocole pour s'approcher de lui. Pour se rapprocher à nouveau de lui. Et ce protocole, eh bien, le Christ va entièrement l'accomplir afin que, étant à sa suite, nous puissions nous rapprocher de Dieu. C'est ça le tabernacle de Moïse. Le tabernacle de Moïse, c'est effectivement Donc là, on voit le tabernacle, j'en ai parlé, donc je ne vais pas représenter, hein, donc les tribus qui campaient tout autour, et au milieu donc de ces tribus qui étaient là, il y avait donc le tabernacle lui-même, que vous voyez ici, mais on va revenir dessus, le tabernacle est là, et tente elle-même, c'est ici. Et là, on voit la colonne de fumée, la nuée, qui est au-dessus, et qui symbolise donc la présence de Dieu. Donc, je vais donner comme titre à ce moment, le tabernacle du désert, la parfaite illustration du chemin qui mène à Dieu. J'ai rappelé hier que, selon 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu, est-il pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour corriger, pour instruire, et on a besoin d'être instruit, justement, de ce fameux protocole dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, on avait vu donc, je rappelle rapidement, lors du buisson ardent, comment Dieu avait donné à Moïse cet ordre, dont on a parlé longuement. On avait vu également les 10 plaies d'Égypte. Est-ce que Moïse a vu les pyramides? Oui, bien sûr. Les pyramides existaient avant lui. Donc, ces 10 plaies d'Égypte, ici dessinées par un peintre. Et la dernière plaie était très particulière et était déjà une certaine symbolisation du pardon par Christ. La dernière plaie va donc toucher tous les premiers-nés. Vous le savez, je pense, tous les premiers-nés. Tous les premiers-nés. Aussi bien ceux des Israélites que des Juifs, que des Égyptiens. Mais Dieu va dire à son peuple, on tuera un animal, on prendra de son sang, on en mettra sur les deux montants et sur le linteau de la porte des maisons. Lorsque je verrai le sang, je passerai sur vous. Il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai l'Égypte. Et effectivement, déjà ici, comme le met se fait cet homme, le sang va couvrir la maison et le destructeur, quand il passera, ne touchera pas ces familles-là. Et passer au-dessus, c'est ce qui, en anglais, je crois que c'est pas sauveur, non? C'est ce qui a donné Pâques. Mais le mot anglais est beaucoup plus proche de la réalité. C'est clair, d'accord? Donc, l'ange exterminateur va passer sur les maisons, et les maisons des Juifs, de ceux qui ont cru, il n'est pas dit du tout que certains Juifs n'ont pas dit « Oh, c'est pas important, je laisse tomber ». Mais ici, on a déjà une première appréciation, une première leçon de l'œuvre de Christ, de son sang qui nous protège. Donc, alors ils vont partir du pays de Gozen, qui est donc une région qui était ici, vers la terre promise, et vous savez donc qu'ils vont passer la fameuse mer rouge, plus exactement, mieux traduit, la mer des roseaux. On pense qu'à ce moment-là, la mer était beaucoup plus large ici, et donc ils vont être poursuivis par Pharaon avec son armée et ses chars. C'est pas sympathique, hein. Vraiment, il n'est pas sympathique. Et puis donc, vous connaissez l'histoire, la mer va se fendre, hein, et puis le peuple va passer au travers de la mer. Regardez Moïse comme il est beau. Mais Fernando, il était pas mal non plus. Et derrière, on voit, ils emmènent tout leur matériel et tout. Et puis lorsque ils vont avoir passé, eh bien, les eaux vont revenir sur les Égyptiens et il leur restera, il ne dit pas un seul. Alors voilà. L'itinéraire, bon, je ne vais pas parler de cette partie-là parce que ce n'est pas l'objet de notre discussion, mais on voit donc l'itinéraire qui vont passer, effectivement, à Mara et Elim, et donc ils vont aller dans ce désert, de désert qui est assez terrible, puisqu'il n'y a pas une goutte d'eau et rien à manger. Donc le Seigneur va faire la cuisine, je sais un peu que ce n'est pas joli, mais va préparer pour 2 millions de personnes quand même. Alors, j'ai pas fait le calcul, mais j'imagine qu'en mettant qu'ils mangent, mettons, 300 grammes de manne par jour, un repas moyen, qu'ils boivent au moins 3 litres d'eau, parce que dans les airs, il fait très chaud. Imaginez un peu la quantité de manne et d'eau que le Seigneur a dû fournir pour que ces braves Israélites puissent traverser. Alors, quelquefois, c'était le désert total, mais quelquefois, c'était, comme ici, eh bien, c'était une oasis dans le désert du Sinaï, comme Élim. Avec ses 70 palmiers, bravo. Ah, c'est bien. Et dans cet endroit terrible, c'est là que, on en a parlé tout à l'heure, parti sur le mont Sinaï, eh bien, il va recevoir de la part de Dieu, écrit du doigt de Dieu directement sur la pierre, les 10 commandements de Dieu concernant donc la manière dont Dieu veut que la relation existe entre l'homme et lui, et puis aussi entre les hommes. Mais ce n'est pas tout. Il va recevoir là aussi quelque chose d'extraordinaire. Eh bien voilà, Dieu dit à Moïse, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu de... Vous voyez, Dieu aime habiter au milieu de son peuple. Ah, c'est merveilleux. Moi, ce sont des réalités qui me font un bien fou de savoir que Dieu habite au milieu des siens, quoi. Et quand on sait que dans l'évangile de Matthieu, il est dit que là, deux ou trois sont réunis pour mon nom, je suis au milieu d'eux. Ah, des fois, je voudrais bien qu'il y ait une nuée, quoi, pour matérialiser ça. Hein, on a besoin de choses pratiques dans nos vies, hein. Mais même s'il n'y a pas de nuée, le Seigneur est là, quoi. Donc, Moïse va recevoir cet ordre impératif de Dieu de faire un sanctuaire afin qu'il puisse habiter au milieu d'eux. Ce n'est pas un sanctuaire pour le sanctuaire. Parce que les sanctuaires en Égypte, il y en avait des tonnes, des grands, magnifiques, des choses fantastiques, le temple d'Abou Simbel et autres. Non, le temple n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dedans. Et là, ce qu'il va y avoir dedans, c'est la présence de Dieu. Et c'est ça qui est fantastique. Alors ce sanctuaire, donc le tabernacle, eh bien, c'est l'habitation de Dieu. Voilà, tout simplement, qui nous révèle sa nature, sa gloire, et le chemin qui permet d'aller jusqu'à lui. Et puis, c'est également la splendide annonce prophétique de la personne et de l'œuvre du Messie, le Seigneur Jésus, qui est le seul chemin qui nous permet d'aller jusqu'à Dieu. Une superbe leçon de choses. Une merveilleuse leçon de choses. Et si vous aimez lire la Bible, je suis certain, vous aimez lire la Bible, tous, pas de problème. Pour pouvoir répondre aux questions de notre sœur, il faut potasser. L'année prochaine, il faudra faire des scores. Eh bien, quand on lit l'Épître aux Hébreux, parce que quelque chose d'important, c'est que quand les Juifs vont construire le tabernacle, ils vont obéir, mais ils ne vont rien comprendre. Ils ne vont pas comprendre pourquoi ils font ça et ça et ça. Mais nous, maintenant, avec le Nouveau Testament, nous pouvons tout comprendre. Avant, c'était obscur, nous dit la parole de Dieu. Maintenant, c'est complètement révélé. Donc, ce tabernacle, c'est une leçon de choses qui nous permet de connaître Dieu et aussi le moyen d'aller jusqu'à Dieu. Alors, je disais tout à l'heure que Dieu ne sait plus habiter au milieu des hommes, le tabernacle, dans la personne de son fils, en esprit, dans l'église. Et lorsque Moïse va faire le tabernacle, il ne va pas y mettre, et je suis désolé pour les dames, sa petite touche perso. Il ne va pas dire, tiens, pour ça, je ferai bien comme ceci, je ferai bien comme cela. Dieu va lui dire, aie soin, et c'est répété de nombreuses fois, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne, car on sait qu'effectivement, pour comprendre comment ces choses devaient être faites, ben, il est monté sur la montagne, et il a reçu de la part de Dieu donc les instructions. Donc, de ce fait, tout ce qui est dans le tabernacle a une valeur. Certaines choses, on a beaucoup de mal à les comprendre. Donc, il ne faut pas aller trop loin. Il y a des choses qui m'indisposent quand je vois certains commentateurs qui disent des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas forcément vraies. Par contre, l'essentiel, on va le voir ensemble, est vraiment très clair. Alors, les matériaux du tabernacle, il y en avait quatre. De l'or, et l'or dans la parole de Dieu, c'est toujours le symbole de la divinité. Le premier exemple, c'est quand les mages, quand ils sont arrivés sur le lieu de naissance du Christ, l'un des mages apportait de l'or, parce que c'était le signe qu'il reconnaissait dans ce petit enfant un roi. Donc, l'or, symbole de la divinité, on retrouve aussi l'argent. L'argent, dans la parole de Dieu, c'est toujours le symbole de la rédemption, du rachat. On rachetait un esclave à prix d'argent. On rachetait toute chose à prix d'argent. D'accord ? Ensuite, l'airain ou le bronze, c'est un alliage de cuivre qui résiste à la chaleur, qui est toujours dans la parole de Dieu le symbole du jugement ou de la souffrance. Par exemple, l'Égypte, à un certain moment, est comparée à une fournaise de fer, mais aussi d'airain. C'est-à-dire quelque chose qui était brûlant, qui détruit. Et enfin, pour terminer, le bois de Sittim, ou le vrai acacia, qui est donc un bois incorruptible. Voilà les quatre matériaux, il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. parce que ces matériaux ont chacun une valeur symbolique très importante. Et puis au niveau des couleurs, quatre couleurs, le pourpre. Et ceux qui connaissent un peu les couleurs, enfin tout au moins la symbolique des couleurs, savent que c'est la représentation du roi. La pourpre était l'habit des rois, et c'est donc l'évangile de Matthieu qui, cette couleur, si je puis dire, si je devais donner une couleur à l'évangile de Matthieu, on dirait le pourpre, parce que c'est l'évangile du Christ roi. Ensuite, le blanc, le fin lin blanc, qui représente l'homme parfait, hein. Dans la symbolique, on voit que la perfection, c'est toujours le blanc, et le lin en particulier, le fin lin blanc, et ça, c'est l'évangile de Marc qui nous présente le Christ comme étant l'homme parfait. L'écarlate, couleur du sang, qui nous représente Christ le Sauveur, qui va donner sa vie, ça, c'est l'évangile selon Luc. Et enfin, la dernière couleur, le bleu, qui nous présente Christ le Fils de Dieu, Christ celui qui vient du ciel, et c'est l'évangile de Jean. Voilà les quatre couleurs, il n'y a pas d'autres couleurs. Il n'y a pas de vert, il n'y a pas, je suis désolé pour ceux qui aiment le vert, ou d'orange, il était un petit touche orange, ça aurait été sympathique, mais non, il n'y a pas ces couleurs-là, parce qu'ils n'ont aucune valeur symbolique. Alors, on m'a demandé des fois, mais d'où des esclaves pauvres ont-ils pu trouver ces 900 kilos d'or? 900 kilos d'or dans le tabernacle. Eh bien, il est dit que l'Éternel fit que le peuple trouva grâce aux yeux des Égyptiens, qui acceptèrent leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Autrement dit, même s'ils étaient esclaves, ils ne sont pas partis les poches vides. De toute façon, ils ont récupéré leur salaire. Hein. Ils ont gratté pendant je ne sais pas combien d'années pour rien du tout, sinon des coups de fouet. Donc, comme toute peine mérite salaire, quelque part, c'est pas du vol, c'est de la récup. Hein. De la récup. Donc, ils sont partis, je vous ai dit, avec 900 kilos d'or, je ne sais pas combien de kilos d'argent. 3000 environ. Plus de 3000 kilos d'argent. Et ils n'avaient pas les poches vides. Hein. C'était vraiment de quoi faire, quoi. Plus de l'étoffe, etc., etc. Alors, voilà donc comment se présentait une autre présentation hein, de ce campement, énorme campement, avec donc la journée, cette nuée qui était présente. Et lorsque le peuple devait changer d'endroit, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, la nuée partait. Alors on pliait tout, selon un ordre très précis, et les tribus se mettaient en marche à la suite de la nuée, selon un ordre très précis. C'était certains, donc les fils en particulier d'Aaron, qui avaient la charge en particulier de démonter tout le tabernacle, et de l'emmener, et ainsi de suite. Et lorsque la nuée s'arrêtait, eh ben voilà, on déposait les bagages, et on remontait toutes les tentes, etc., etc. Hein? Quand on voit le parcours qu'ils ont fait, ben ils ont fait quelques centaines de kilomètres, hein, comme ça. Et la nuit, qu'est-ce qu'il y avait la nuit? Eh ben il y avait une colonne de feu, qui était au-dessus du tabernacle. Vous voyez là, c'est... Même si tout le monde dort, l'Éternel, lui, ne sommeille jamais. Et je disais combien ça devait être rassurant pour le peuple juif en plein désert de savoir que Dieu était là. Hein? Parce qu'effectivement, ben, dans le désert, en pleine nuit, il y avait des bêtes sauvages. Faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait des lions dans le Sinaï. Hein? Si vous lisez la Bible, on voit d'ailleurs que certains y sont passés, il y en a croqué quelques-uns, des ours, etc., etc., des bêtes sauvages qui ont disparu maintenant. Et donc la nuit, même quand quelqu'un avait une frayeur, une peur, parce que la nuit, c'est jamais très facile, eh bien, il pouvait voir cette flamme de feu et dire, ah, le Seigneur est là. Bon, alors nous, on n'a pas de flamme de feu, mais le Seigneur est quand même là. Hein? C'est ça qui est important. Alors, si une coudée fait 50 cm, voilà les dimensions, donc, de l'ensemble du tabernacle. C'est pas bien grand. 25 mètres de large sur 50 mètres de long. C'est la taille d'une piscine olympique. C'est tout petit. Et c'est vrai que par rapport au temple égyptien, je ne sais pas, vous avez peut-être été au musée du Louvre, il y en a des parties qui sont colossales, c'est énorme. Ça devait sembler, mais tout petit quoi. Mais tout petit, petit. La taille d'une piscine olympique. Alors que les temples égyptiens, c'était sur plusieurs centaines de mètres. Puis bon, il y avait les pyramides, Khéops, Khéphren, Mykérinos, des choses énormes. Ouais, mais Dieu n'était pas là. Et ce qui compte, c'est pas la taille, c'est la présence du Seigneur. Donc même si ça pouvait paraître petit, et c'était petit, c'était quand même merveilleux parce que le Seigneur était là. Alors, autour du tabernacle, il y avait donc une courtine. Une courtine, c'était donc un linge blanc qui était là pour empêcher les petits curieux de voir ce qui se passait à l'intérieur. Et cette courtine faisait 2,50 m de haut et elle nous montre la séparation qui existait entre le saint et le profane. Il nous est dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre, mais ce sont vos crimes, vos péchés, qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Et en réalité, il y avait trois rideaux pour pouvoir entrer jusque dans la présence de Dieu. Et ces rideaux nous montrent, et ça c'est important, qu'on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Que quand on veut, par exemple, demain matin, on va s'approcher du Seigneur, tous ensemble. Et que le Seigneur nous donne cette compréhension qu'il est saint. Et que quand on vient le dimanche matin pour l'adorer, eh bien notre cœur doit être préparé pour cela. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Et si nous avons eu la grâce d'être sauvés, que nos péchés sont maintenant disparus, ce n'est pas pour autant qu'on arrive n'importe comment. Alors s'il y avait donc une très, donc c'était, je vous ai dit, 25 mètres de large, la porte d'entrée était très grande puisqu'elle faisait 10 mètres. 10 mètres sur les 25 mètres, donc on s'aperçoit que la porte d'entrée était très importante. Et la porte d'entrée, ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est que le tabernacle était toujours orienté de la même manière. Et la porte d'entrée était éclairée par le soleil levant. C'est-à-dire que dès le matin, moi là-bas il n'y a pas beaucoup de nuages, hein, dès le matin, le soleil venait éclairer la porte d'entrée. Et je me dis des fois, c'est un peu notre rôle, non pas qu'on ait des soleils, hein, mais notre rôle c'est de faire comprendre aux gens où est la porte d'entrée. Pour pouvoir s'approcher de Dieu. C'est notre rôle. Donc elle était dirigée vers l'est, et dès le matin, elle était illuminée. Alors, cette porte d'entrée, on l'a vu, était donc brodée, artistement brodée, de quatre couleurs, et ces quatre couleurs nous rappellent le blanc, le bleu, le pourpre et l'écarlate, donc nous parlent de qui ? Ben, du Christ. Et effectivement, le moyen pour passer cette porte d'entrée, il n'y en a qu'un, c'est celui, alors je rappelle les couleurs, excusez-moi, mais j'ai pensé d'avoir supprimé cette dia, les quatre couleurs. Il est la porte. En vérité, je vous le dis, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et vous savez que Jean était quelqu'un qui était très au courant de l'Ancien Testament. Et on retrouve Matthieu aussi. Il cite très souvent l'Ancien Testament. Mais au niveau d'une connaissance, je dirais, pas des versets, mais de la pensée de l'Ancien Testament, Jean était vraiment un artiste à ce niveau-là. Et Jean nous rappelle ici le tabernacle. Et quand il nous dit qu'il est la porte et que Christ est le chemin, il nous veut faire comprendre qu'il n'y a pas d'autre porte. Il n'y avait pas d'autre porte. Il n'y avait qu'une porte. Elle était très large. Elle était aux couleurs de Christ. C'est pour ça que quand on dit à quelqu'un que Christ est le chemin, la vérité et la vie, mais c'est une phrase très forte, on va nous dire vous êtes intolérants. Et les autres religions alors ? Les autres religions, c'est d'autres religions. Combien de musulmans sont venus au Seigneur à cause de ce verset de Jean 14,6 ? C'est le verset qui les frappe le plus. Et si vous connaissez des musulmans, et que vous voulez leur apporter la parole de Dieu, apportez-leur Jean 14,6. Pour eux, c'est un verset qui les frappe, parce que vous savez qu'ils n'ont aucune certitude, ni sur le chemin qui mène à Dieu, d'ailleurs je ne sais même pas s'il y en a un, puisque c'est très compliqué, et quand on leur dit que le chemin qui mène à Dieu, c'est le Christ, et qu'il n'y en a pas d'autre, ils l'acceptent souvent. Vous savez, il y a un film qui s'appelle Jésus, je pense que vous avez tous entendu parler de ce film. Hein. Il y a donc une version en arabe. À Nanterre, sur les marchés, on le donne facilement. Ils le lisent, ils l'écoutent, ils le regardent, Et il croit totalement ce qu'il y a dedans. Alors que l'enseignement de ce film est totalement opposé au Coran. Puisque le Coran nie que Jésus soit Dieu, que le Coran nie que le Christ soit mort sur une croix, et que le Coran nie qu'il est mort pour les péchés. Alors que quand ils regardent ça, ils disent, oui, c'est vrai, c'est comme ça, ça s'est passé, c'est la vérité. Et dans ce film, je crois que ceux qui l'ont fait insistent bien pour montrer que Christ est effectivement le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient à Dieu que par lui. Donc, la porte. Et les Juifs, quand ils avaient compris que cette porte existait, ils savaient que c'était aussi le moyen de pouvoir entrer. Le parvis. Alors le parvis, c'est la partie qui est ici. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord entrer par la porte. Ensuite, vous aviez donc une partie importante qui était devant le tabernacle lui-même, devant la tente elle-même, qu'on appelle donc le parvis. Et dans ce parvis, il y avait donc deux choses importantes, et c'était là que se faisaient les sacrifices. C'était dans le parvis qu'il y avait une agitation importante. Et qu'est-ce que c'était que cette agitation? Alors on va essayer de détailler. Quand un juif avait péché, il devait amener pour son péché un animal qui allait être sacrifié. À l'entrée, il y avait ces hommes en blanc, ce sont les sacrificateurs, les prêtres. La première chose qu'on faisait, c'était de vérifier l'état de l'animal. Car il n'était pas question d'offrir en sacrifice un animal boiteux, ou blessé, ou complètement cuit, quoi. Il fallait que ce soit un animal jeune et en pleine forme. Exactement, qu'il soit parfait. Comme celui qui s'est offert pour nos péchés était parfait. Et cette perfection physique, bien sûr, nous parle d'une autre perfection, la perfection morale du Seigneur Jésus. Donc ils étaient là, et ils regardaient, ils examinaient la bête, pour savoir si cette bête pouvait être offerte en sacrifice. Ensuite, on amenait l'animal. Alors, pour certains sacrifices, c'était des moutons, pour d'autres, c'était des animaux plus gros, comme on voit ici des bœufs. Et ces animaux donc étaient amenés ici, et là, celui qui avait péché, alors je ne sais pas si on le voit après, oui. Donc le juif qui avait péché prenait son animal, le mettait sur une de ses banquettes, je ne sais pas comment dire, et devait lui imposer les mains, et ensuite le tuer. Alors là, il y a une grande signification. Quand un juif avait péché, il amenait un animal. En mettant ses mains sur l'animal, il condamnait l'animal à mort. Pourquoi? Parce que le péché qu'il avait fait, lui, était en quelque sorte transmis à l'animal. Et comme le salaire du péché, c'est la mort, il fallait que l'animal meure. Bien sûr, notre Dieu n'est pas un Dieu qui se contente de flots, de sang, de locaux, etc. Mais, je l'ai dit, c'est une leçon de choses. Et au départ, quand on lit le livre de l'Exode, c'était celui qui avait péché qui donc s'identifiait à l'animal qui allait être mis à mort, et c'est lui qui le mettait à mort. Ça coûtait cher un péché. Ça coûtait très cher un péché. Premièrement, quand vous passiez la porte avec votre animal, c'était au vu de tout le monde. Ça coûtait cher de pécher. Nous, je ne dis pas qu'on pêche facilement, je veux croire que nous sommes tous des gens qui sommes pieux, qui ne faisons pas n'importe quoi. Mais je dis que quand un juif péchait, ça coûtait cher. Pas simplement que financièrement, hein. Aller avec son animal, ah, dis donc, il a péché. Ah, regarde-le. Ah, puis c'est un gros animal, c'est un gros péché. Oh là là. Après, t'avais les sacrificateurs qui examinaient ta bête. Sympathique. Dites donc, elle a un tendon de cassé, là. On n'en veut pas. Hein. Il n'est pas parfait, ta bête. Ah bon? Non, pas un autre. Alors, après, bon, t'avais le sacrificateur qui disait, bon, mais tu imposes tes mains sur l'animal de façon que ce soit lui, en quelque sorte, le récipient de ton péché, quoi. Et après, tu lui tranches la gorge. Ça coûtait cher à pécher. Je veux bien aimer que vous ayez, même si c'est avec ce soir, que ça, que vous rappeliez, c'est fondamental. Le péché, ça coûte cher. Et le péché a coûté très cher à celui qui, comme, a été exposé devant tout le monde, a été comme une brebis qu'on mène à l'abattoir, n'est-ce pas ? Et puis qui a été mis à mort pour nos péchés. Et je me dis, est-ce qu'ici, les plus jeunes comme les plus âgés, vous avez vu vos mains sur Jésus-Christ ? Est-ce que vous avez mis vos mains sur Jésus-Christ afin que le péché que vous avez commis, lui qui était pur, est devenu péché pour nous ? Est-ce que vous comprenez maintenant certaines choses concernant le tabernacle et la richesse extraordinaire de cet enseignement ? Eh bien oui, j'espère que chacun d'entre vous a compris que le Christ est mort pour vos péchés et que vous avez mis vos mains sur lui, bon, pas enfin, spirituellement bien entendu, hein, pour que vous soyez purifiés, dégagés de vos péchés et que lui soit mis à mort à notre place. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste, dans Jean 1, 29, a dit à ceux qui étaient présents, voici l'agneau de Dieu, parce que Dieu ne pouvait pas se satisfaire d'animaux. Mais c'était, je vous l'ai dit, une leçon de choses, en attendant que. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'étais étonné cette année, alors j'espère que ça a eu un problème de traduction, j'étais avec des jeunes allemandes, et il y en a une qui, pour la première fois de sa vie, a compris pourquoi Jean-Baptiste désignait le Christ comme l'agneau de Dieu. Je n'en veux pas, peut-être que j'avais mal expliqué aussi. Hein. Bref. Mais c'est vrai que c'est une réalité quelquefois qui nous échappe. On lit ça, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, d'accord, ok. Mais qu'est-ce que ça veut signifier vraiment ? Mais quand Jean-Baptiste a dit de ça du Christ, bien entendu, et c'est dans l'évangile de Jean, c'était en relation avec ce qui se passait dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ensuite, eh bien, cet animal, normalement, était brûlé, selon les cas en partie, selon certains cas en totalité. Je ne vais pas faire, parce que les sacrifices dans l'Ancien Testament, je crois qu'il y en a au moins 6 ou 7 différents, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'on puisse comprendre que le premier pas qui me permet d'aller un petit peu plus loin vers la présence de Dieu, eh bien c'était déjà de pouvoir avoir la paix avec Dieu au travers de ce sacrifice que le Seigneur demandait. Et la parole de Dieu nous dit que cette activité était aussi bien le jour que la nuit. Alors je ne sais pas combien il y avait de juifs qui attendaient avec leurs moutons, mais c'est des troupeaux entiers qui ont dû être décimés comme ça. Les troupeaux entiers. Alors je ne sais pas s'ils arrivaient pour chaque péché, ou je ne sais pas comment, il n'y a pas de loi, il n'y a pas dit un mouton pour 10 péchés ou pour 20 péchés, je ne sais pas. Je pense que dès que le juif qui avait péché avait une conviction profonde qu'il avait mal agi devant Dieu et qu'il voulait être en paix avec Dieu, bien, il amenait son sacrifice, quoi. Il amenait son sacrifice. Il y avait, enfin, je te dis, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y avait certains sacrifices pour lesquels les prêtres avaient droit à une partie pour se nourrir, hein. Et puis d'autres où la bête est entièrement brûlée, entièrement. Et il est dit que Christ, c'est vraiment un holocauste. C'est-à-dire qu'il a été entièrement, entre guillemets, brûlé. Et si tu veux, c'est pour ça que quand on parle ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale d'holocauste, c'est pas, j'aime pas ce terme, parce que ça n'a rien à voir. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Juifs disent qu'ils sont l'holocauste. Puisqu'on peut traduire certains passages d'Ésaïe 53 comme si c'était eux. Bien sûr que ce n'est pas eux. L'annonce ici n'est pas du peuple juif qui va souffrir pour nos péchés. L'annonce ici, c'est l'annonce du Christ qui va souffrir pour nos péchés. Il faut dire la Shoah, oui, ça c'est juste comme terme, la Shoah, mais pas l'Holocauste. Et cela nous rappelle que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je veux arrêter là en disant que dans le livre des psaumes, vous avez peut-être remarqué que très souvent la joie des différents psalmistes, quand ils disent « Pour nous, notre bonheur, c'est d'entrer dans les parvis de l'Éternel ». Effectivement, le peuple juif n'avait pas le droit d'aller plus loin. Il n'avait pas le droit d'aller plus loin. Il devait se contenter, en étant en paix avec Dieu, d'entrer dans les parvis de l'Éternel, et c'est tout. Mais ce qui m'a vraiment touché, et si vous regardez dans votre Bible, le nombre de fois que les psalmistes se réjouissent, « Mon bonheur, c'est d'entrer dans les parvis, le seuil de ta maison, etc. etc. » un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Et mais les versets comme ça sont nombreux. Pourquoi? Parce que ces hommes, quand ils disent ça, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est la joie du pardon. C'est la joie du pardon qu'ils annoncent. Parce que le fait de pouvoir entrer dans les parvis signifiait que préalablement, ils avaient offert un sacrifice pour pouvoir entrer déjà dans les parvis. Mais Dieu, et on le verra demain si c'est possible, ne veut pas qu'on arrête là. Il veut nous entraîner beaucoup plus loin, puisque ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on retrouve cette communion, donc qu'on aille jusqu'où? Les parvis? Non. Nous, bien-aimés, contrairement au peuple juif, on va aller beaucoup plus loin. On va passer par la cuve des reins, et puis après on va rentrer dans le lieu saint, et puis après dans le lieu très saint, et si le Seigneur permet, on verra ça demain. Mais le plus important, c'est que vous ayez bien compris que Christ est la porte, et que vous ayez bien compris aussi la valeur du sacrifice. La valeur du sacrifice, nous la comprenons, je crois, plus complètement lorsqu'on examine ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Et qu'on voit combien c'était pour le peuple juif, et bien ce sacrifice. Quand j'ai dit coûteux, tout à l'heure, il faut que ce soit clair, c'est pas simplement que financièrement. Hein, d'accord? C'était tout l'aspect qu'il y avait derrière. Quoi. Ça devait être dur de tuer un animal. Hein. Bon, peut-être que certains savent le faire facilement, mais moi, je ne sais pas comment j'aurais fait. D'ailleurs, au bout de très peu de temps, eh bien, ce sont les Lévites, donc les prêtres, qui s'en sont occupés. Parce que ça devait être quand on ne sait pas, on fait n'importe quoi. Donc, pas question non plus de faire souffrir les animaux. Donc, à un moment, on va s'apercevoir que ce n'est plus l'homme qui avait péché, qui tuait l'animal, mais c'était carrément les prêtres qui le faisaient. Quoi. Mais par contre, l'imposition des mains, ça a demeuré. Voilà, chers amis, je crois qu'on a déjà eu une bonne dose de tabernacle pour ce soir. Je vais prier pour remercier le Seigneur parce que j'ai beaucoup de joie de partager ces choses avec vous. C'est tellement merveilleux, c'est tellement beau. Et je remercie le Seigneur pour cela. Oui, notre Dieu, je te loue parce que comme on l'a vu, tu es un Dieu qui se paie dans la présence de l'homme. Mais à cause de notre péché, Seigneur, cette communion a été rompue. Et au lieu de se rapprocher de toi, on s'est éloigné de toi. Et on a fait beaucoup de mal, on a vraiment été très loin de toi. Mais merci parce que Christ est venu sur terre pour nous rapprocher de toi, afin de pouvoir à nouveau avoir avec toi cette communion bénie qui se base sur des valeurs communes que nous pouvons partager. Seigneur, merci de cette instruction que tu nous donnes au travers du tabernacle. Merci parce que nous y voyons là toute ta pensée, toute ta sagesse, afin de pouvoir venir auprès de toi. Merci parce que Christ est celui qui nous précède et c'est lui qui nous donne le droit de pouvoir entrer dans ce parvis déjà, mais qui nous donne aussi le droit d'aller beaucoup plus loin, jusqu'au bout, jusqu'au terme, en ta présence même. Seigneur, demain matin, nous aurons le grand privilège de venir auprès de toi. Et nous savons ce que cela a coûté à ton Fils, afin que nous ayons ce privilège énorme. Seigneur, nous voulons te dire que c'est pour nous une grande joie. Prépare nos cœurs ce soir, pour demain, pour la suite de cet exposé, mais surtout, Seigneur, pour que de nos cœurs montent vers toi des chants d'adoration, de louange. Merci, Père, pour ton amour. Merci pour Jésus-Christ, ton Fils, qui est le chemin qui mène à toi. Nous te bénissons en son nom. Amen. Amen.